Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez Nicolas, il sait de quoi il parle. Salut les amis.
Hello.
Bonjour, bonjour.
Salut, salut. Encore une émission sans Nicolas, promis, il revient rapidement. Imaginez, juste imaginez. T'as enfin réussi à devenir celui qui va accompagner la plus belle des terminales de ta classe au bal du lycée. Après des années de moqueries de toute la gente féminine parce que t'as un appareil dentaire, parce que blablabla. Et au moment où tu vas partir, tu te coinces l'arbalète dans la braguette.
Tu y vas, la boum?
Sauf que les boum, c'est...
Parce que je me disais qu'on pourrait peut-être y aller ensemble.
Ah, et si tu vas avec une bande de copains, ouais, enfin, si tu veux que quelqu'un vous amène en voiture.
Non. Je veux dire, toi et moi, on pourrait y aller ensemble.
Quand j'avais 16 ans, je suis tombé amoureux. Ah, non, j'étais pas en train de...
Ah, il pisse le sang.
Ça va, père?
Je suis sûr que c'était bien de l'amour.
Encore Marie, je rêve.
Et si ça avait été un coup de cœur, ça n'aurait pas duré 13 ans.
L'arbalète.
J'ai cherché synonyme pénis tout à l'heure, vraiment premier degré.
Et arbalète, oh putain. Ouais. Ok. Ouais.
Les hommes sont friands en synonyme valeureux.
Vous noterez qu'en vraiment, après braguette, il y avait la virgule extrait. Mais là, du coup, vous faites que des vannes.
Non, mais j'aurais mis l'extrait entre temps, t'inquiète. J'ai géré ça au montage, il n'y a pas de souci. Je suis un professionnel.
Tu es un professionnel.
En gros, tu veux dire qu'il s'est un peu serré le col roulé, quoi.
Voilà, super. Marie, à tout prix, vous l'auriez compris, de Peter et Bobby Farrelly avec Cameron Diaz et Ben Stiller, qui est ressorti en salle le 27 décembre dernier par les Acacias et dont on va vous parler ce soir. Parce qu'il se trouve que les personnes autour de cette table adorent le cinéma des Farrelly, ce que je trouve absolument incompréhensible pour quiconque ayant vu Dumb and Dumber. À l'heure actuelle, je suis désolé, non, en vrai, les Farrelly, c'est donc deux frères. Je vais donner la parole à Simon pour qu'il nous explique un peu plus le contexte sur Marie à tout prix, qui est pour le coup une comédie culte de chez culte et qui est vraiment assez grandiose. Mais moi, les Farrelly, il y a un truc où j'ai du mal à saisir leur humour graveleux. Ils ont eu un premier long qui est culte aussi, mais ça vraiment, je ne comprends pas, c'est Dumb and Dumber. Mais Simon, je t'en prie, disons-nous plus sur ces cinéastes et sur pourquoi ils sont si importants dans l'histoire de la comédie américaine des années 90 et comment on en arrive à Marie à tout prix.
Bah, les frères Farrelly, ce sont ces réalisateurs qui vont être, on va dire, les rois de la comédie hollywoodienne avant que ne surgissent et ne deviennent à son tour, enfin ne viennent leur prendre la couronne, Judd Apatow et, on va dire, tous ses descendants. Et du coup, on les a, et c'est normal parce que leurs derniers énormes succès commencent à remonter un petit peu sans être de vieux films, sans être perçus par le grand public comme des classiques. Bah, du coup, on les a un petit peu oubliés. Et c'est très important de se rappeler d'eux parce que moi, je les trouve assez passionnants, tout simplement parce que ce duo, alors ils sont toujours en activité, mais maintenant ils travaillent séparément. L'un des deux est quand même allé choper des Oscars avec son Green Book notamment. Hein.
Pardon.
Ah, je trouve que c'est un film réussi, Green Book, mais on en reparlera peut-être.
Oui, mais en gros, la spécificité de leur cinéma, de leur humour, il me semble, c'est de reposer toujours sur trois forces bien particulières. Une qui fait vraiment leur singularité, c'est un rapport vraiment à la grande école hollywoodienne américaine de l'âge d'or classique, du comique de situation, ce que les Américains appellent le slapstick. C'est-à-dire où on tombe, on se met des tartes, on tombe en arrière, qui a, on va dire, a reçu ses lettres de noblesse éternelle avec les Three Stooges, dont ils ont d'ailleurs eux-mêmes réalisé une adaptation qui a été un gros bide, mais il n'empêche, c'est un geste quand même assez audacieux et cinéphile de leur part et qui en dit long sur leur univers. Donc il y a, voilà, on va dire, ces origines-là, cette manière d'appréhender l'humour, le comique, un humour physique, un humour qui fait bim bam boum.
Exactement ça.
À côté de ça, il y a une tradition plus alénienne, j'ai envie de dire, de travailler la névrose. La névrose, en gros, c'est quoi, hein ? C'est quand vous avez mal à cause de quelque chose qui, en général, ne fait pas mal aux autres. Pour le résumer à grand trait de tronçonneuse. Bah, si on regarde bien, il y a eu quand même une énorme partie de leur filmographie qui n'est consacrée qu'à ça. Marie à tout prix, c'est l'histoire de mecs, au pluriel, qui ne peuvent pas concevoir de ne pas posséder une fille bien précise rencontrée au collège. C'est pas de la névrose, c'est quand même quelque chose. Fou d'Irène, c'est l'histoire d'un type qui s'est tellement fait marcher sur les pieds qu'il est obligé d'en devenir schizophrène pour ne pas imploser de l'intérieur et qui donc a un rapport très conflictuel avec l'extérieur, avec les autres, puis avec lui-même. Et puis, si on veut regarder Dumb and Dumber, moi, il y a quand même un truc qui ne cesse de me rendre Dumb and Dumber, en plus d'être hilarant, absolument fascinant, c'est que j'ai toujours une question perpétuelle sur est-ce que ces gens, est-ce que ces personnages jouent à être débiles ou sont débiles ? Est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'ils sont cons ? Ou est-ce qu'ils sont les deux ? Et ça, ça me rendrait presque le film angoissant. Enfin, je trouve ça passionnant. Mais oui, excuse-moi de penser le cinéma, Arthur. Excuse-moi de penser le cinéma où de grands artistes, de grands comédiens peuvent se tirer des sons d'urinaire sur 8 km. Et enfin, le troisième truc, je crois, c'est une connaissance assez intime, assez personnel. Alors c'est lié au deuxième point, de la psyché américaine ou oui du corps social américain, de comment il est constitué. Par exemple cette comédie qui est Fou d'Irène, qui se passe essentiellement dans le Delaware, si ma mémoire est bonne.
Dans le Maine.
C'est
le Rhode Island.
Rhode Island. Absolument. Bah,
comme l'ouverture de Marie à tout prix d'ailleurs.
Tout à fait. Mais comme quoi je connais bien le film. Ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement américain, mais c'est pas typiquement américain pour nous, Français, qui les regardons de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sont des Américains avec une vision du territoire, de la ruralité, des groupes sociaux qu'ils composent, très spécifique, très particulier. Et voilà, pour moi, ce sont les trois lignes de force de leur cinéma qu'on va retrouver dans Marie à tout prix. Tu vois, tu évoquais effectivement ce jeune homme qui, dans la scène d'ouverture, ce qui est, on va dire, le trauma originel du héros, se retrouve, on va dire...
Vas-y, un bon synonyme, s'il te plaît.
J'ai envie de dire, se fait des nœuds aux nœuds.
Ok.
Comment il l'appelle déjà dans Marie à tout prix ? Parce que Genre, il dit, il faut que répéter, genre...
Je sais plus.
Bon, tant pis.
Mais ce jeune homme qui se fait des nœuds aux nœuds, on le découvre via une séquence qui est quand même, encore une fois, donc une séquence purement d'humour, de situation, qui va jouer sur le suspense, sur la tension, la révélation de ce plan, où on va finir par voir ce qu'il a entre les jambes et dans la braguette, et où c'est à la fois aussi douloureux que rigolo. Et puis à côté de ça, après, on va partir sur un vrai portrait de personnage via Ben Stiller. On va étudier un peu ce type mélancolique, encore obsédé, 15-20 ans après, par cette fille du lycée. Au passage, c'est un trait, encore une fois, de psychose et de névrose. Et on va finalement découvrir qu'on est dans un film où, des années, des décennies même, avant que ce terme, ce vocable n'arrive dans le langage courant, on va parler de toxicité masculine. Ou en tout cas, on va parler de névrose masculine, de patriarcat et de rapports tordus, dangereux, venimeux aux femmes. En riant, mais c'est néanmoins le sujet. Et enfin, le film va aussi nous parler de comment l'Amérique voit culturellement une partie de sa population, en l'occurrence les femmes, les jeunes femmes, et il faut bien voir à ce niveau-là comment est filmé le personnage de Mary et comment est dirigé Cameron Diaz. Et donc voilà, à nouveau, on a ces trois piliers. On a un humour très référentiel, un petit peu à l'ancienne, une connaissance du corps social américain et un rapport profond à la névrose et à sa mise en lumière.
Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une vraie évolution sur cette question-là, et notamment sur ce que tu parles de la toxicité masculine, parce que pour avoir vu Dumb and Dumber il y a 3 jours, il y a un vrai gap, il y a un vrai écart entre Dumb and Dumber en 94 et Marie à tout prix en 98 sur la représentation du féminin et la représentation du masculin. Ce qui est intéressant aussi à noter, et je voulais peut-être entendre Sophie un peu là-dessus pour démarrer, c'est que donc ils font Dumb and Dumber, qui est plutôt un gros carton, ils font un deuxième film qui s'appelle Kingpin, que personne n'a vu à part moi, parce qu'il était sur ma canal, et spoiler, c'est pas très bien, et je suis pas le seul à l'avoir dit, puisque le film a fait un gros four au box-office. Et donc au moment où ils attaquent Marie à tout prix, il y a un peu cette logique de bon, ça sera peut-être notre dernier film. Ils ont un budget qui est plus petit encore que Kingpin, ils ont 23 millions alors que sur Kingpin ils en avaient 25, et ils se disent on va mettre tout notre cinéma dedans. Et Marie à tout prix, c'est un peu le film de la dernière chance pour les Farrelly, et spoiler, ce sera leur plus grand succès, parce que rien que pour la France, ça a fait plus de 3,5 millions d'entrées.
Ouais, Marie à tout prix, comme tu l'as dit, c'est un putain de succès, et d'ailleurs je pense que c'est un succès un peu intergénérationnel, c'est ça qui a fait la force de Marie à tout prix. Moi je l'ai pas vu de moi-même, par exemple c'est ma maman qui me l'a montré quand j'étais relativement jeune, parce que c'était un film qui avait fait rire tellement, mais ça avait fait tellement rire les parents, mais ça avait fait rire aussi mon frère qui était ado à l'époque. Je crois qu'il y a eu un truc très communicatif où tout le monde a pu trouver son compte dans le film, parce que comme l'a dit Simon, c'est un mélange de comédie, j'ai envie de dire presque absolue dans Marie à tout prix ou dans Food Irene. C'est-à-dire qu'il va y avoir un côté toujours très graveleux, très pipi caca, très très bête au premier degré de la bêtise qui va surtout aller chercher les ados. Puis il va y avoir un côté un petit peu plus presque intello, et t'as très bien fait de citer un truc un peu alénien sur la névrose. Moi, c'est la force des Farrelly, c'est cette espèce de mélange-là. Et moi, ce qui m'intéresse sur le féminin, comme pareil l'a évoqué Simon, c'est qui cette Marie ? C'est qui cette nana et qu'est-ce qu'elle représente ? Et pourquoi les gens sont complètement crazy about her. Enfin, vraiment, il y a ce truc de... En fait, le titre en anglais, c'est « There's something about Mary ». Et on pourrait se demander, c'est quoi ce « something about » ? C'est quoi ce petit quelque chose qu'elle a en plus ? Et j'ai l'impression que dans la plupart des films, et c'était Cameron Diaz, elle a aussi joué dans un autre film très marquant de la génération des 90, c'est qu'elle a joué dans The Mask. Sauf que dans The Mask, c'est pas la même Cameron Diaz. C'est une Cameron Diaz avec une robe méga fondue. C'est une Cameron Diaz qui va créer chez Jim Carrey cette mâchoire de Tex Avery. C'est une pin-up. Là, c'est qui Marie ? C'est une fille super indépendante, super successful. Elle est docteur, elle est altruiste, elle s'intéresse à son frère Warren qui est handicapé et qui donc va passer beaucoup de temps dans un groupe d'aide aux personnes autistes, handicapées physiques, etc. Enfin, c'est une nana qui a des copines avec qui elle peut parler de sujets relativement libérés. Par exemple, elle confesse avoir un vibromasseur, ce qui pour l'époque est à la fois un petit peu sexy, mais aussi qui montre une forme d'indépendance quand même assez folle. J'ai l'impression que ce qui la rend un peu inaccessible, c'est que techniquement, c'est une nana qui n'a pas besoin de mec. C'est une nana qui a une vie complète. Elle est au-dessus de tous ces mecs qui, eux, sont en manque de quelque chose. Et surtout dans la caractérisation physique, bon, c'est Cameron Diaz, c'est la, sans doute en plus à l'époque la femme avec le plus beau sourire du monde. Elle est sur un archétype physique, elle est grande, elle est mince, elle est blonde, elle a une peau parfaite. Mais elle n'est pas sexualisée physiquement par la caméra, même quand on va avoir un plan sur ses seins. En fait, ça va être rigolo parce que ça ne va pas être les siens et il va y avoir un gag visuel là-dessus. Elle est juste, j'ai envie de dire, un peu parfaite. Mais elle n'est pas sexualisée. Elle met des jeans et des ballerines. Elle est habillée ni court, ni moulant, ni transparent. C'est une nana assez lambda. C'est une girl next door. C'est la girl next door parfaite. Et ça, c'est déjà un plus en soi. Qu'elle soit ni vulgaire, ni sexualisée à la caméra, et que c'est ces mecs qui sont littéralement en chien sur elle. Moi, je pense que c'est un des films les plus drôles du monde. Je pense que Food Irene est plus drôle, mais celui-là a une capacité de séduire un peu plus de personnes que Food Irene, qui est un tout petit peu plus déglingos.
C'est un peu plus radical, Food Irene, ouais, ouais. En fait, t'as raison de souligner tout ça dans le personnage de Marie. En fait, ce que font les Farrelly, ce qui est plutôt malin et assez avant-gardiste en termes d'écriture, c'est qu'ils vont vraiment faire de ce personnage-là la femme parfaite à tous les niveaux, tant physiquement que psychologiquement et humainement. Ce qui, du coup, par contraste, va souligner encore davantage le fait que tous les personnages masculins qui évoluent autour d'elle sont tous des gros tarés. Et c'est là que le film est super intéressant à revoir avec un œil d'aujourd'hui. C'est qu'effectivement, et Simon l'a relevé, c'est un film qui... derrière ces atours de comique de situation et de comique un peu absurde et un peu décalé et parfois un peu graveleux, il faut le dire aussi, c'est un film qui nous parle de la toxicité masculine et qui a pour personnage principal quelqu'un qui a l'air, et je dis bien seulement l'air, d'être le moins toxique de tous, alors qu'en fait c'est quand même un gars qui depuis 13 ans fait une fixette obsessionnelle sur une meuf qu'il a pas revue, dont il ne sait fondamentalement rien, qu'il n'a pas pécho à la base parce que le premier date a fini aux urgences, donc il est complètement prisonnier de son passé, et le gars va traverser la moitié du pays pour aller retrouver cette meuf dont, je rappelle, il ne sait strictement rien, avec pour objectif de la séduire. Donc derrière ces atours de grand chevalier et d'homme sympathique, en fait il est tout aussi taré que les autres, et l'évolution de ce personnage-là sera justement d'apprendre à arrêter d'être un stalker, et c'est en apprenant à arrêter d'être un stalker qu'il va peut-être avoir l'opportunité de construire un truc durable avec cette meuf-là, et qu'elle va enfin le voir comme un potentiel petit copain, parce que justement il aura progressé là où les autres mecs vont s'enfermer dans leur névrose. Donc c'est un comique qui est intéressant, parce que c'est un comique qui, bah, encore une fois, derrière ses atours de grand divertissement, porte un point de vue politique sur l'Amérique de l'époque et sur comment on aborde la masculinité dans la société des années 90. Et c'est super intéressant. Pour revenir à un truc un peu plus cinématographique, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans le cinéma des Farrelly, et tout particulièrement dans Marie à tout prix. C'est un peu le cas aussi dans Food Irene, mais c'est un petit peu moins prononcé. Il y a plusieurs manières d'envisager le comique au cinéma, mais de toute façon, faire de la comédie à un moment ou à un autre, c'est tisser une complicité avec le spectateur. Ça peut être, par exemple, on en a parlé dans cette émission, avec le cinéma des As, y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc., où on est dans la parodie, c'est-à-dire qu'on va dire au spectateur, voilà un genre de film que tu connais bien, le film catastrophe, le film policier, et ben on va en détourner les codes et comme ça tu vas rire et c'est, il y a une complicité entre les cinéastes et le spectateur sur la base de cette parodie-là. Mais par contre, il y a quand même une diégèse, il y a quand même un quatrième mur, il y a une frontière symbolique entre ce qui se passe dans le film et nous, spectateurs. Il y a à l'inverse d'autres comédies qui, pour le bien d'un gag ou de quelques gags, vont occasionnellement briser le quatrième mur. C'est le cas dans La Cité de la Peur avec cette fameuse séquence intégralement bruitée à la bouche, où ben là pour le coup, les acteurs sont des acteurs et on entend vraiment Alain Chabat et Dominique Farrugia et Chantal Lobby en studio en train de doubler une séquence de leur propre film et donc on va jouer sur une mise en abîme pour créer du gag. Ce qui est super intéressant avec le cinéma des Farrelly, c'est que eux, le quatrième mur, ils n'en tiennent pas compte. Il n'existe pas. Le premier plan du film est super parlant pour ça. C'est un plan en grue qui est d'ailleurs plutôt joli, je trouve, pour une comédie. Comme quoi, la comédie, on peut faire de la mise en scène aussi. Et ce plan en grue va se terminer sur le personnage de Ben Stiller à l'adolescence, donc un personnage de pure fiction. Sauf que avant ça, on a le générique dans le même plan et on a deux musiciens qui chantent un morceau qui en fait nous raconte l'histoire du film, qui d'ailleurs porte le même titre, There Is Something About Mary, et qui chantent ce morceau au spectateur directement en le regardant dans la caméra. Et donc dès le début, les Farrelly nous disent il n'y a pas de quatrième mur. Ce que tu vas voir, c'est une fiction, tu le sais, on n'est pas là pour entretenir l'illusion, au contraire, on est là pour s'amuser avec toi de ce que cette fiction nous permet de faire en termes de comique, de situation, en termes d'absurde, en termes de décalage. Et ça fait que bah, ce premier plan, il contamine tout le reste du film. Et il y a plein de situations que, honnêtement, on trouverait super téléphonées et super absurdes et pas du tout crédibles dans des tonnes d'autres comédies et qui là fonctionnent parfaitement parce que dès le début, les Farrelly nous ont dit c'est un film avec des acteurs, il y a un scénario, tout est fabriqué, donc on peut tout se permettre. Et du coup, il y a une vraie générosité et une vraie fraîcheur qui se dégage du film.
Tu as absolument raison, et justement ça les amène, ou plutôt ça les libère effectivement d'un certain souci, on pourrait dire, de cohérence que tu es tenu d'avoir sur tout film, sur tout récit, qui leur permet en fait de tirer absolument le maximum de toutes les séquences. C'est, je trouve, très frappant et très vrai dans la séquence de combat de catch avec le chien, mais qui est un festival parce qu'en fait, quasiment à chaque plan, ils vont utiliser une technique différente pour essayer de maximiser l'effet comique. Mais normalement, je veux dire, normalement, c'est insupportable à regarder. Parce que quand tu changes à chaque plan d'idée, de technique, de point de vue, je veux dire, pour le spectateur, c'est fatigant. Et du coup, ça devrait même pas permettre à un tempo comique de s'installer. Sauf que, justement, comme tu l'as dit, comme ils ont abattu le quatrième mur, toi, tu acceptes ça, l'idée que t'as aucune cohérence visuelle, aucune cohérence même thématique au sein de la séquence. C'est-à-dire que ça commence, vous savez, on a dit à Ben Stiller, va donc ouvrir le chien, il est dans la salle de bain. Attention, il est super vénère. Et donc, le mec, il ouvre la porte, tu vois, t'as ses plans en plongée contre plongée. Manifestement, il s'attend à voir un Doberman, un bas rouge. Et là, il a ce petit bâtard qui a l'air
c'est
d'avoir...
Benji. Ouais, c'est Benji. Ils le disent en plus. Oui, c'est Benji.
Qui a l'air d'avoir 18 ans et qui a l'air à peu près aussi redoutable que ma grand-mère qui est décédée il y a une demi-décennie. Et sauf que non, là, Benji, là, à ce moment-là, c'est plus un vrai chien, contrairement au plan précédent. C'est une marionnette. Il l'attaque, il commence à le mordre à l'entrejambe, il commence à faire du catch. Là, ça devient même plus une marionnette. C'est un chien en plastoc dur. Donc le truc absurde devient très très drôle. Puis t'as des plans où c'est à moitié le corps une marionnette et puis la tête un vrai chien. Puis t'as des zooms. Bref, ils utilisent énormément de techniques différentes qui normalement ne devraient pas pouvoir cohabiter. Ça devrait faire tâche. Et là, ça marche, ça fonctionne. Et malgré la frénésie du montage, parce que justement, le fait dès le début de nous dire « Ok les gars, ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas, donc on peut tout faire », eh ben, les autorise à tout faire. Et je trouve qu'ils sont à la hauteur de cette promesse-là d'un point de vue stylistique. Parce que oui, tu disais tout à l'heure, Marie à tout prix, c'est pas mal pour une comédie, ça déborde d'idées de style. Quoi.
Ah, complètement.
Et j'ai un petit fun fact, juste deux secondes par rapport à ce que vient de dire Simon. Sachez-le, hein, le film a été nommé au Golden Globes, il n'a rien eu. En revanche, il a eu 3 MTV Movie Awards, dont celui du meilleur combat entre Ben Stiller et Puffy le chien. Pour la scène dont tu viens de parler, Simon.
Pareil, autre fun fact, mais qui me... Parce que... Sachez qu'en un an, on l'a vu 2 fois, Marie à tout prix, avec Alexis.
C'est le premier film qu'on a vu de l'année 2023 et un des premiers qu'on a vu de 2024. Et c'était pas planifié.
C'était le hasard. Mais ça fait 2 fois qu'il y a un personnage assez important qui est celui de Magda. Et ça fait 2 fois que Alexis me fait « Ah putain, c'est la vieille Dinty !» Je suis « Oh mon Dieu, mais c'est vrai !» Et genre, voilà, donc sachez qu'il y a Lin Shay qui joue dedans et qui là fait une espèce de nana floridienne, je sais pas si on dit floridienne, si, mais qui floridienne ouais. Typique.
Oh, floridique même.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Très, 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 très bronzé. Donc avec la peau très, très, très sèche partout.
Bah, disons que c'est l'équivalent, oui, floridien de la cagole de Fréjus de 67 ans.
C'est ça, exactement.
Mais ce qui est super intéressant, c'est que le film ne regarde tout à fait en face le fait qu'elle est vulgose, inculte, bruyante, imblairable, tout ce que tu veux, et en même temps le film ne se moque absolument jamais d'elle. Il n'y a jamais un regard surplombant sur elle, on n'est jamais là genre « Ah, quelle grosse beauf !» Pas du tout. Le film a un amour vraiment pour tous ses personnages, mais y compris les plus tarés, hein, qui est assez rare en vérité, je trouve, dans le cinéma américain en général.
Bah, je pense qu'un des personnages dont on n'a pas parlé, et surtout un des acteurs dont on n'a pas parlé, c'est Matt Dillon.
Ouais.
Parce que Matt Dillon, on n'a plus l'habitude... ils le sont tous en vrai. C'est ça le truc.
Il est caractérisé un peu comme le grand méchant du film.
Bah, c'est le plus conscient de sa situation et celui qui a le moins envie d'y remédier.
Mais c'est vrai que le personnage au final de Tucker ou celui de Woogie, enfin en fait il y a plusieurs personnages qui sont caractérisés comme des personnages chelous. Mais en fait il est techniquement motivé par exactement le même essor que les autres.
Ouais.
C'est-à-dire que lui aussi il a ce coup de foudre pour cette nana. Et ça, on le remet jamais vraiment en cause. Il a flashé sur elle. Après, est-ce que ses sentiments sont sincères ou est-ce que c'est de la chasse? C'est encore autre chose. Est-ce que la manière dont il va le faire, c'est pas pire que les autres? Sans doute. Mais on n'a plus l'habitude de voir Matt Dillon. C'est vrai que là, les derniers rôles, quand je pense à Matt Dillon, c'est dans Proxima, il fait cet astronaute un peu sombre, un peu sexiste, mais en même temps qui va appuyer dans The House That Jack Built.
J'allais dire, faut que les deux films soient répondent un petit peu, c'est le préquel en fait.
Et après, je fais ah ouais, c'est celui qui drogue le chien et qui appelle le frère de Marie un retard. Ah oui, c'est vrai.
Non, mais en plus, et c'est là où le cinéma des Farrelly est intéressant aussi, c'est dans leur choix de casting. C'est quand même des mecs qui sont allés chercher, alors pas toujours, parce qu'il y a des choix de casting qui étaient assez évidents. Prendre Jack Black en tête d'affiche d'une comédie, c'est assez évident. Mais ils ont quand même eu des intuitions de casting qui sont super intéressantes. Et effectivement, Matt Dillon dans Marie à tout prix, c'est un peu bizarre en vrai sur le papier, parce qu'il faut rappeler pour ceux qui ne le savent peut-être pas que Matt Dillon dans les années 80, c'est un des visages d'un certain cinéma d'auteur américain un peu radical. C'est le rôle principal de Drugstore Cowboy de Gus Van Sant, c'est de mémoire l'un des acteurs principaux du Rusty James de Francis Ford Coppola. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment évolué dans le cinéma d'auteur, et un cinéma d'auteur assez sérieux, assez politique, et d'un coup il déboule dans un rôle de vieux redneck dégueu, manipulateur et macho au possible, et en plus il s'en délecte, enfin ça se voit qu'il s'amuse comme un gamin. Et du coup il y a une espèce de contraste qui est super intéressant, et c'est un peu le cas aussi avec Jim Carrey dans Food Irene. Parce que pour résumer grossièrement, parce qu'il faut un peu parler à mon sens de Food Irene, je trouve qu'à le mettre en parallèle avec Marie à tout prix, c'est super intéressant parce que les deux films sortent à très très peu de temps d'écart. Mais le truc, c'est que dans Food Irene, on a le personnage de Jim Carrey qui a trois enfants dont la particularité est qu'ils sont noirs, et c'est genre, c'est vraiment des...
Et sa femme à lui était blanche.
C'est vraiment des... Ouais, c'est des Renois du ghetto, quoi. C'est Tupac qui a fait de la muscu, quoi. Donc évidemment, le contraste entre Jim Carrey, qui est tout frêle, et ses trois gamins, qui sont hyper gomuscu, c'est assez rigolo, mais il y a malgré tout là-dedans la trace d'une certaine connaissance de la carrière de Jim Carrey et de ce qu'il représente, parce que Jim Carrey a démarré sa carrière dans In Living Color, émission de télé avec un casting quasi exclusivement afro-américain, quasi, parce que le seul blanc de l'équipe, c'était Jim Carrey.
Ah, mais c'est ce que j'allais dire, à part lui...
Voilà. À part lui, tout le monde était noir dans le film. Donc, rejouer ce truc-là, ce mariage entre Jim Carrey, donc l'Amérique blanche canadienne, et l'Amérique des Afro-Américains, et montrer un mariage harmonieux, parce que c'est une famille qui est totalement fonctionnelle, et les enfants
très
débordent
aimante.
D'amour pour leur père, et leur père est un super bon papa. Donc, il y a un truc là-dedans où tu sens que les frères Farrelly, ils se servent un peu du bagage de leurs acteurs pour pour tisser leur personnage et pour tisser leur situation. Et c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on trouve si souvent que ça dans la comédie. Même Jim Carrey s'est retrouvé dans pas mal de films où bah, il était là pour faire du Jim Carrey et hop, vite, vite fait, bien fait, emballer ses pesées, on passe à autre chose.
Mais si vous voulez parler, vous renseigner sur la carrière de Jim Carrey, mais en parallèle des Farrelly, parce que ça parle quand même beaucoup de Dumb and Dumber et de Foodie Irene et du rapport de Jim Carrey et des Farrelly, il y a un super petit docu qui s'appelle Jim Carrey, l'Amérique démasquée, qui est en libre visionnage sur Arte.
Sur Arte. Ouais.
Et il y a un tiré d'un bouquin du même nom. Et ça explique pas mal comment, notamment, Dumb and Dumber a propulsé la carrière de Jim Carrey, ça et Ace Ventura, et comment ça en a fait l'acteur le plus riche et le plus bankable aussi au cinéma. Et comment Foodie Irene, c'est le début de la désamorce. C'est vraiment intéressant, c'est surtout très bien documenté.
Moi j'ai une question pour vous, parce que Marie à tout prix est un film que j'aime parce que film d'enfance, comme ce que vous avez dit, etc. etc. Autant Dumb and Dumber est un film que j'ai découvert il y a quelques jours, j'ai un réel problème avec le fait que je trouve que le film a extrêmement mal vieilli.
Par rapport à quoi ?
Par rapport à certains gags, par rapport à certains arcs de personnages, par rapport au fait qu'il va stalker une meuf, et je trouve que ça a mal vieilli parce que ça n'a pas de regard sur la situation. Qu'est-ce qui fait, selon vous, en dehors de mon propre opinion, hein, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en revanche, Marie à tout prix a aussi bien vieilli ? En dehors de tout le commentaire politique qu'on vient de parler.
Je suis un peu embêté, désamorcé d'un point de vue argumentatif par ta question, parce que moi je trouve que Dumb and Dumber a incroyablement bien vieilli, justement. Enfin, pour moi, ça n'a pas bougé vraiment. Parce qu'il me semble que Dumb and Dumber, mais tout comme le premier plan de Marie à tout prix annonce qu'il ne va pas y avoir de quatrième mur, c'est ce que nous expliquait Alexis, je ne vais pas le paraphraser, mais voilà, libère la mise en scène. Il me semble que le contrat de Dumb and Dumber, en gros, tu as affaire à con et super con qui vont partir en vacances. C'est une blague de Toto racontée par des cocaïnomanes, quoi. Et à partir du moment où on me dit c'est ça le contrat, mais en fait les gars, ils pourraient sabrer la tétine à des animaux morts, que je trouverais encore ça rigolo. C'est-à-dire que tout est possible aussi. J'ai vraiment inventé cette expression, elle n'existe pas.
Ouais, je la comprends.
Alors, je pense que je vais ajouter une pierre à l'édifice ou une pièce à la machine. Je savais pas trop que je voulais dire, les deux. Dumb and Dumber, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Par contre, j'étais allée voir Dumb and Dumber 2, qui là, pour le coup, était une catastrophe. Mais je n'ai pas un mauvais souvenir de Dumb and Dumber à ce point. Ce n'était pas ce qui me faisait le plus rire. En revanche, il y a un autre film des Farrelly qui n'a pas du tout bien vieilli, c'est L'Amour extra large.
Oui, mais ça, à la limite, c'est parce qu'effectivement, il y a une vision.
Mais dès sa sortie,
c'est qu'il y a un souci. Je pense que les Farrelly sont des gens, et en plus, on peut le voir avec Green Book, peu importe ce qu'on en pense, je suis de ton côté, Arthur. Mais je pense que c'est pas un film avec des mauvaises intentions. Du tout. Je pense que c'est un film très bienveillant. Et je pense que globalement, les Farrelly sont très bienveillants. Et notamment, je pense que L'Amour extra large, aussi problématique soit-il, en est la preuve. Ça, on a eu ce gros débat avec Alexis qui connaissait pas le film, et je lui ai montré des scènes. Il y a des scènes dans L'Amour extra large qui sont hilarantes. Qui sont hilarantes parce que ça repose sur du slapstick, sur des mimiques de Jack Black, sur du comique de situation. Cependant, ils ont raté leur postulat de départ. Mais complètement. C'est-à-dire qu'ils disent à Jack Black, qui est superficiel, qui ne veut sortir qu'avec des mannequins Victoria's Secret, bah en fait, tu vas arrêter de regarder le physique juste des gens et tu vas voir leur beauté intérieure. En gros, c'est ça. C'est le twist magique, il est là. Sauf que du coup, ils voient Gwyneth Paltrow, qui, dans la vraie vie, fait à peu près 210 kilos et qui, quand il a le réflexe magique, est une mannequin Victoria's Secret.
Et Gwyneth Paltrow,
tout court, du coup. Là où il y a un souci, c'est que le film te dit, bah ok, la vraie beauté, puisque c'est la beauté intérieure, bah elle correspond aux critères de beauté standard. Donc du coup, ça ne fonctionne pas, le gag ne fonctionne pas. Pourtant, leur idée de base, elle est proche d'un Disney. Tu arrêteras d'être omnubilé uniquement par le physique et peu importe ce qui se passe, tu vas tomber amoureux avec le cœur et non plus avec les yeux. Seulement, ils ont raté leur postulat. Et du coup, le film est super grossophobe et à plein d'aspects, mais déjà lors de sa sortie et encore pire maintenant. Et je pense que Dumb and Dumber, il y a un peu ce phénomène qui est, il y a des choses qui ont mal vieilli parce que la société a vieilli. C'est pour ça que le film est passé de juste pas drôle à profondément grossophobe pour L'Amour extra large. Ouais. Et Dumb and Dumber, il y a des trucs, si c'est pas ton humour, ça marche pas. Il y a des trucs qui grincent un peu parce qu'on ne fait plus ce genre d'humour maintenant. C'est comme Foodie Irene, si le film n'était pas hilarant de A à Z, des sketchs, enfin il y a des passages sortis de leur contexte. Il y en a un, c'est une agression sexuelle. Hein. Genre il faut l'admettre. Par contre, comme c'est présenté depuis le début par un personnage déviant qui fait n'importe quoi, il va y avoir une création d'absurde. Et là, je trouve que le cinéma des Farrelly fonctionne. Et pour Marie à tout prix, c'est ça, quoi. C'est toujours poussé dans l'absurde.
Bah, disons que juste avant Simon, je te donne la parole après, mais juste par rapport à, pour aller dans ce sens-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Suite à l'échec de Kingspin, ils diront en interview, on a voulu faire le film le plus impolitiquement correct possible. Donc pousser le plus loin dans les retranchements. Et pourtant, il a mieux vieilli que de Mendenburg, d'une certaine manière, je trouve, selon moi.
Mais en fait. En fait, si tu veux, il ne faut quand même pas oublier que le premier moteur de la comédie, qu'on soit dans du comique de situation, dans du comique de dialogue, dans du comique de montage, ce qu'on veut, le premier moteur de la comédie, c'est de regarder des gens commettre des actes répréhensibles. Le dîner de cons, pense qu'on veut du dîner de cons, ce sont des gens pervers, manipulateurs et odieux qui invitent des gens, j'ai envie de dire, vulnérables, fragiles et faibles pour se moquer d'eux. Eh ben on va rendre ça drôle. Alors oui, certes, parce que ça se retourne contre eux, parce que, bien sûr, le discours est à plusieurs cibles, etc. Tout ce qu'on veut, c'est quand même des gens odieux. Le Père Noël est une ordure. Ce sont des gens infects, infâmes, qui se réunissent pour mal aider, voire même faire du mal à des gens vulnérables et qui finiront par en découper et les jeter aux chiens, enfin, aux animaux du parc de Vincennes. Enfin bref, et on peut faire une liste comme ça infinie. Ça n'est pas que ça, ça n'est pas toujours ça la comédie, mais c'est aussi beaucoup ça. Et donc, du coup, en fait, quand tu fais, c'est ce qui fait, si tu veux, quand tu assumes ce point de vue et cette logique qu'on va rire de l'horreur finalement, ou rendre supportable et donc analysable ce qui est affreux, bah, tout d'un coup, tu vois que dans Fou d'Irène, t'as quand même effectivement une agression sexuelle qu'on arrive à rendre assez drôle, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et ça veut pas dire la minorer. Ça veut pas dire la minorer. C'est la tourner en ridicule, c'est la questionner et la rendre, tu le disais, absurde et drôle. Mais
c'est parce qu'il y a des personnages au début qui fantasment cette agression sexuelle de premier degré en mode « Oh là, t'as vu, c'est une femme, elle allaite, elle a des gros boobs !» Et en fait, là, t'as un côté réaliste et tu vois un mec qui passe à l'acte et là, tu te dis « Mais le mec, il est tarbé !» Genre, il y a un truc qui ne fonctionne.
C'est vachement moins rigolo maintenant.
C'est vachement moins rigolo.
Oui, puis il faut aussi, pour parler de ce gag-là, il faut rappeler que donc, le pitch hein, de Fou d'Irène, c'est donc, comme tu l'as dit, Simon, au début de l'émission, c'est un mec qui va développer une double personnalité parce qu'il s'est fait humilier toute sa vie. Et sa double personnalité, en l'occurrence, est le pire connard, pervers, agresseur et dégueulasse qui puisse exister. Le cheminement de ce personnage est ce qui fait qu'on a de l'empathie pour lui. Et qu'au fil du récit, il va essayer de se débarrasser de cette double personnalité parce qu'elle est encombrante, parce qu'elle est mal intentionnée. Donc effectivement, la scène est drôle parce qu'elle est complètement over the top. Il n'empêche que le film derrière n'oublie pas que c'est quelque chose de négatif, et c'est quelque chose de négatif pour le personnage autant que pour son entourage, et son cheminement va être de s'en débarrasser. Le vrai problème que tu soulèves, Sophie, avec l'amour extra large, et tu m'en as montré des extraits, et c'est vrai que c'est compliqué... Outre le fait que cette prémisse pose problème parce qu'elle lance le film dans la mauvaise direction, moi je pense que le problème il est beaucoup plus simple que ça. C'est pas marrant. Voir une Gwyneth Paltrow dans un fat suit qui monte dans une voiture et la voiture s'enfoncer dans le bitume, bah, je suis désolé, c'est digne d'un gamin de 6 ans dans une cour de récré. C'est pas marrant. Ça n'a rien à voir avec le tempo comique et l'imagination dont les Farrelly ont pu faire preuve dans leur film d'avant. Tu vois,
je t'en ai montré quelques-unes des scènes et la fin. C'est vrai que y a de temps en temps, on retrouve du tempo comique. Et je suis la première à être horrifiée de dire qu'il y a quelques gags qui fonctionnent. Mais il y en a qui fonctionnent.
Mais parce qu'il y a des gags qui doivent reposer sur un décalage et d'autres gags qui ne reposent pas sur un décalage, qui reposent vraiment juste sur... On pointe du doigt quelqu'un de gros et on dit « Ah, regardez, le gros, il est monté dans la voiture est s'enfoncée. » C'est marrant quand même. Mais non, ça, c'est pas drôle.
Regardez, il y a une différence fondamentale.
C'est représentatif de leur travail en général.
Mais il y a une différence fondamentale. Dans Fou d'Irène, à un moment, tu as, et puis ça va prendre une certaine importance dans le récit, mais bref, tu as Jim Carrey qui se moque d'un homme albinos. Et vraiment, il se fout de sa gueule. Et alors, au début, tu rigoles. Enfin, moi, je sais que j'ai vu le film. En plus, j'ai vu le film, j'étais adolescent. Donc, je me bidonne comme c'est pas permis. Et là, tu as ce personnage qui dit, mais pourquoi vous vous foutez de moi ? Et qui est sincèrement heurté et qui est blessé. C'est pas si souvent, quand on se moque de quelqu'un au cinéma, qu'on a tout d'un coup le contre-champ de quelqu'un qui dit « Mais attendez !» Et qu'on impose au spectateur de devoir regarder quelqu'un qui vient de se faire marcher sur les pieds qui dit « Mais ça fait super mal en fait, puis j'ai un panari, puis je pue des pieds. » Bref, mais et ce que je veux dire, c'est que le problème de l'amour extra-large, c'est qu'on n'a pas ce contre-champ-là. Le film assume le regard, si j'ose dire, du personnage de Jim Carrey, de dire ah, « Ah, sa bagnole s'enfonce dans le sol tellement elle est lourde. Eh, ta mère, elle s'appelle Sauvé Willy. » Enfin bref, tu vois, il assume ce point de vue-là et il n'y a jamais le contre-champ.
Et c'est ça. Et pour en revenir à Marie à tout prix, il y a un personnage qui est super casse-gueule dans Marie à tout prix, qui est le personnage de Warren, qui est le petit frère ou grand frère d'ailleurs, mais en tout cas c'est le frère de Marie,
oui,
qui est handicapé mental et qui du coup a un comportement et une attitude qui est complètement en décalage avec le reste des personnages et qui va être à l'origine de pas mal de gags, puisque notamment il déteste qu'on lui touche les oreilles. À chaque fois qu'on lui touche les oreilles, ouais, il devient hyper violent. Et il y a plein de moments où Ben Stiller et Matt Dillon vont se prendre des fions dans la tronche parce qu'ils lui ont touché les oreilles. Mais en définitive, il y a deux trucs quand même qui sauvent complètement ce personnage et qui font que les gags fonctionnent encore aujourd'hui et qu'on se sent pas du tout mal à l'aise vis-à-vis de la représentation des handicapés. C'est que premièrement, on ne rit jamais de Warren, on rit des personnages qui se prennent des beignes de la part de Warren, et c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même focalisation. Et surtout, excepté le personnage de Marie, c'est le seul personnage positif qui est positif et qui est attachant et qui est bienveillant du début à la fin du film.
Et puis il faut savoir que les Farrelly ont souvent fait jouer des personnes handicapées physiques ou mentales dans leurs films. Toutes les personnes handicapées dans le centre avec Warren sont de véritables personnes handicapées. Et ça, c'était important pour eux aussi de montrer que c'était pas de la moquerie sur ces personnages-là, parce qu'en fait, ils ont un certain attachement. Et je pense que ça, c'était déjà assez anticipateur de critiques qu'on pouvait leur faire et de eux montrer qu'en fait on pouvait aussi rire de tout et avec tout le monde du moment que c'était fait avec un certain fond de bienveillance.
Puis, en fait, le seul souci que j'ai rhétoriquement avec cette approche-là du cinéma et de se poser la question de qu'est-ce qui a pu survivre au poids du temps ou ce qui n'y a pas survécu, c'est que quand on pousse ce raisonnement-là un tout petit peu plus loin, très rapidement on est dans une impasse. Et moi, c'est toujours ça qui m'a un petit peu dérangé. Je peux tout à fait comprendre qu'on trouve offensant, par exemple, le personnage de Warren. Moi, c'est pas mon cas, et j'estime avoir des arguments suffisants pour continuer de penser que c'est pas un personnage offensant.
Mais on a tout à fait le droit de le ressentir comme tel.
Bien sûr. Le fait est que si on est offensé par un personnage handicapé qui est à l'origine de gags, si on a l'impression qu'on se moque des handicapés, bah moi je me dis, le problème c'est que quand on fait l'inventaire de tous les films qui existent, il y a quand même un sacré paquet de limites morales et parfois certaines qui sont à ne pas franchir, à ne surtout pas franchir dans la vie, qu'on franchit régulièrement dans les films. Et ça n'est pas un problème parce que, et c'est encore une fois le mantra des frères Farrelly, nous sommes dans un film, nous sommes dans une œuvre de fiction, nous sommes dans quelque chose qui a été fabriqué. Personne ne s'indigne du fait que James Bond, par exemple, ne va jamais interpeller le méchant et l'emmener devant un tribunal pour qu'il soit jugé, qu'il ait un avocat et qu'il puisse obtenir une peine qui correspond à la gravité de ses crimes. Non, il lui met une balle dans la tête et tout le public a fait « Ouais, le gentil a tué le méchant !» Vous vous rendez compte quand même que si on était dans la vraie vie, ce serait terrifiant une société où on réagit comme ça. Mais le fait est qu'on est au cinéma. Et donc, c'est là aussi où les frères Farrelly sont intelligents, c'est que en brisant le quatrième mur, ou plutôt en ne tenant pas compte de l'existence du quatrième mur dès le début, ils nous le disent « On est dans une fiction ». Ça a l'air d'être la vraie vie, c'est pas la vraie vie, donc on va se permettre des trucs que dans la vie on ne se permet pas, et c'est pour ça que le cinéma existe aussi, c'est pour relâcher un peu la pression, se faire marrer tous ensemble, rigoler un peu de nos défauts, rigoler de nos bizarreries, rigoler aussi de nos névroses et de tout ce qui dans la vie est pas rigolo du tout, et on va décompresser un bon coup, et ça fait que leur cinéma est, je trouve, super inclusif et super universel en fait.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi quelque chose qui me marque, moi je suis assez sensible à une technique qui est le running gag, le gag à répétition, quoi, le gag qui se répète le long d'un film. C'est vraiment un truc, sur moi ça marche très 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 bien, et je trouve que là-dedans, je trouve que c'est une formule, c'est un motif où je trouve ils sont absolument brillants. Dans Fou d'Irène, dans Marie à tout prix, il y a vraiment des gags qui reviennent, que ce soit le chien, que ce soit Warren, que ce soit la vache. Oui, absolument.
Avec
qui se gratte. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ou la vache dans Fou d'Irène, il y a comme ça, littéralement, voilà, des running gags que je trouve absolument incroyables dans leurs films et qui, moi, me propulsent aussi dans un pur royaume de fiction. C'est-à-dire ce monde où reviennent des motifs totalement cons qui surgissent à l'image à intervalles réguliers ou irréguliers. Moi, ça me facilite énormément l'immersion dans leur récit.
Bah, pour conclure, en tout cas, et pour conclure les films aussi, un petit détail que peut-être on soulève pas assez souvent, je trouve que les Farrelly ont les meilleurs génériques de fin de tout le temps. C'est-à-dire que la fin, le générique de Marie à tout prix, c'est pas un spoil, c'est un générique, c'est un petit peu une espèce de... c'est pas complètement un making-of, c'est pas complètement le bêtisier, c'est pas complètement ça. C'est des scènes qu'ils ont tournées un petit peu en plus, peut-être pour les mettre directement dans le générique, avec une chanson et un espèce de lip-sync commun à l'intégralité du cast, dont les figurants, qui fait écho au générique de fin de Food Irene, où en fait, c'est des photos ou des extraits avec voici les personnes qui ont été coupées au montage, et on avait quand même envie de les mettre, et pendant que défile le générique, on a en fait plein de portraits pour nous rappeler encore une fois que c'est un film, une œuvre de fiction, et aussi pour nous dire que malgré tout ils sont bien marrés sur le tournage, ce qui a grave l'air d'être le cas de Marie à tout prix, surtout quand on voit le générique de fin. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas ça a l'air d'être le cas, donc en plus on sort avec cette espèce de feeling de... Et en plus, le film, il a été cool à tourner. Et ça, c'est chouette.
J'avais une dernière question pour vous, très rapidement, pour les gens qui nous écoutent et qui aiment beaucoup le film. Votre gag préféré de Marie à tout prix ?
Pareil, moi, je vais aller sur du classique, mais je pense que c'est quand Warren, il met des baffes aux autres. Hein. Moi, je trouve que ça marche toujours. Hein. Ça marche très, très bien. Surtout la première fois où il fait une espèce de prise de catch à Ben Stiller dans le salon avec Keith David. Là, je trouve ça incroyable. Non, c'est bon, je l'ai, mon gag préféré. Quand Ben Stiller sonne chez Marie au début du film et que c'est Keith David qui lui ouvre la porte et qu'il n'y a 15 secondes de... Ok, donc elle est blonde aux yeux bleus et lui, il est noir. Et il y a 15 secondes de malaise et c'est absolument magnifique.
Oui, c'est vrai.
Surtout que c'est Keith David en plus, genre c'est un acteur badass des années 80-90 et tout, tu te demandes ce qu'il fout là, quoi.
Badass, charismatique, mais qui dégage une espèce d'énergie... rigolarde, paillardeau, lubrique, qui est très particulière.
Ouais,
c'est-à-dire que tu vas sonner chez une femme, c'est Keith David qui ouvre, tu dis bon, on s'en va, c'est pas la peine.
Je l'ai, ça y est, j'ai mon gag.
Moi, c'est vraiment un enchaînement, parce que ça fait partie plus ou moins du même gag, mais c'est vraiment à quelques secondes d'intervalle, quand il y a la battle avec le chien, ce plan où voilà, il fait une prise de catch, il saute, et pour écraser le chien, qui à ce moment-là est vraiment un bout de plastoc, et là, hop, raccord, enfin, ellipse, raccord, le chien est emplâtré sur le toit de la bagnole. Et là, moi, cet enchaînement prise de catch, toit de voiture, c'est merveilleux.
Moi, c'est sans doute à la réflexion quand il y a Matt Dillon qui prépare tout son truc pour finalement se racheter parce que Marie commence à avoir des doutes et Magda qui a son espèce de talkie-walkie qui capte les ondes des téléphones et que Marie est là avec toutes ses copines, dont Sarah Silverman, et qu'elles sont en train d'écouter et que Marie se prépare à aller rompre avec Warren et qu'elle entend Warren qui dit à son pote qui a un script mais qui se fait bouffer par le chien de... Tu sais, j'ai menti à cette fille. Je ne suis pas vraiment avocat. Mais qu'aurait eu-t-elle à faire d'un pauvre humanitaire qui va aider des enfants ? Et l'autre, en fait, il a plus son script et il dit « Oui, t'as même aidé des gens qui avaient des herpès virulents. » Et vraiment, et ça, la scène s'étire, ça passe, mais et tout est génial. Elle est géniale, cette scène, avec les copines qui sont « Mais non, regarde, c'est trop le prince charmant. Il a aidé des enfants et t'a menti, mais c'est pas grave. » Et vraiment, toute cette scène est d'un timing parfait. Parfait. Tout est génial. Et puis, moi, Matt Dillon me fume dans toutes les scènes, et notamment quand il parle d'Harold Emaud. Je trouve que c'est génial.
Marie à tout prix de Peter.
Attends, et toi ?
Moi.
Et personne n'a parlé du sperme dans les cheveux. Elle est
ouais, mais le sperme dans les cheveux et la braguette, c'est presque trop évident. Non, en vrai, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Mais je sais que gamin, le coup de l'hameçon, ça me faisait vraiment très rire. Le coup de l'hameçon, ça m'a vraiment fait rire.
C'est pareil, c'est drôle et c'est douloureux.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de ça quand même dans ce film. Et dans le cinéma des frères Farrelly, de manière générale. En vrai, je conseille aux gens de se pencher sur cette filmographie, même si... Moi, j'ai vraiment passé un moment douloureux devant les premiers longs des frères Farrelly. Il y a quand même un truc de... Ça raconte quelque chose de la comédie américaine des années 90. Ça raconte, ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de ce que sera la comédie américaine des années 2000, de Joe D'Apato, etc., etc. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas peut-être votre cam, mais jetez-y un œil, et notamment à Marie à tout prix, donc de Peter et Bobby Farrelly, avec Cameron Diaz et Ben Stiller, qui est donc encore en salle, distribué par les Acacias. Et vous, du coup, bah, c'était ma chute. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt hameçon dans la bouche ou sperme dans les cheveux ? Dites-le nous dans les commentaires. Enfin, franchement, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir les réponses.
Pas sûr.
En fait,
Dites-le nous, mais
par
pas,
DM et seulement à Simon Rio.
Voilà. Et en rébus, vous nous le dites en rébus. Merci.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de carte blanche pour cette fois. Une prochaine fois, promis. Si vous nous écoutez ce mardi, sachez que le nouvel épisode de Via Cast Plus sort demain. En tout cas, oui. Sort cette semaine.
Alerte spoiler.
Premier épisode d'alerte spoiler.
Mais sans spoiler. Voilà, et pour les autres, on se retrouve vendredi avec une Frankenstein au féminin et deux procès pas très rigolos. Bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.